Bonjour chers auditeurs de Radio Silence, voici l'actualité religieuse de la semaine. Paris, Monde. Paris. En ce 16 octobre 1793, il est exactement 12h15, lorsque la tête de Marie-Antoinette, reine du royaume catholique de France, tombe dans le panier du bourreau. Femme, reine et mère, Marie-Antoinette est lâchement exécutée après un procès honteusement truqué, orchestré par la franc-maçonnerie, dont s'inspireront par la suite les pires réquisitoires staliniens. Rien ne peut justifier le véritable martyr que les révolutionnaires les plus extrémistes ont fait subir à notre malheureuse reine. Après la condamnation à la mort de Sa Majesté le roi Louis XVI, le 21 janvier 1793, elle endure une souffrance physique et morale insupportable qui lui fera dire qu'elle n'a plus de larmes pour pleurer. Aux fenêtres de la tour du temple, où la famille royale est retenue prisonnière, à travers les barreaux de sa cellule, les monstres sans culottes décorés de la cocarde tricolore lui brandissent la tête empalée de sa meilleure amie, la princesse de Lamballe. C'est un tribunal révolutionnaire et donc illégitime, plus avide de haine que de justice, qui a prononcé son effroyable condamnation alors qu'il n'y avait aucune charge à son encontre. Elle a ainsi subi un procès perdu d'avance. La souveraine, qui répond à ses juges assassins en déclinant son identité, parlant déjà d'elle-même à l'imparfait, « Je m'appelais Marie-Antoinette Lorraine d'Autriche », avait sans doute conscience du simulacre de justice. Parfaitement innocente des crimes dont l'accuse la franc-maçonnerie, Marie-Antoinette est sauvagement guillotinée et rend sa belle âme à Dieu le 16 octobre 1793. Elle n'avait que 37 ans. Sa lettre testamentaire à Madame Élisabeth, sœur du feu roi Louis XVI, demeure un chef-d'œuvre poignant de foi, d'amour, de fidélité, de courage, d'abnégation et de vérité. Conduite à l'échafaud, la reine de France, dans ses derniers instants, présente ses excuses à son bourreau pour lui avoir marché sur le pied. Que Marie-Antoinette bénisse et protège du haut du ciel la France, son beau royaume qu'elle a tant aimé. Monde. Dans son célèbre discours prononcé à Regensburg devant ses pairs académiques en septembre 2006, notre pape Benoît XVI avait rappelé qu'un empereur de Constantinople, Manuel II Palaiologos, avait mis en relief dans un document de l'an 1391 un lien intime entre l'islam et la violence. Cette citation, pourtant historiquement correcte, avait soulevé les ires du monde islamique, et le pape a cru devoir s'en distancer à la suite, mais la chose était dite. Un bref regard sur le monde d'aujourd'hui confirme la clairvoyance de l'ancien empereur et du pape. Tant que la population musulmane dépasse pas 2% dans un pays donné, ils sont pour la plupart considérés comme une minorité pacifique et pas encore comme une menace pour les autres citoyens. États-Unis, 0,6% de musulmans, Australie, 1,5%, Canada, 1,9%, Chine, 1,8%, Italie, 1,5%, Norvège, 1,8%. De 2 à 5%, ils commencent à exercer un prosélytisme envers les autres minorités ethniques et les mécontents, recrutant souvent essentiellement parmi les détenus et les bandes urbaines. Danemark, 2%, Allemagne, 3,7%, Royaume-Uni, 2,7%, Espagne, 4%, Thaïlande, 4,6%. Au-delà de 5%, ils exercent une influence démesurée qui est fonction du pourcentage de population qu'ils représentent. Par exemple, ils exigeront l'introduction de nourriture halal en menaçant les chaînes de distribution qui s'y opposeraient. À ce stade, ils feront pression sur le gouvernement en place pour être autorisés à s'autogérer dans les limites de leur ghetto, en commençant à appliquer la charia ou loi islamique. Pays concernés, France 8%, Philippines 5%, Suède 5%, Pays-Bas 5,5%. Lorsque la proportion des musulmans approche 10% de la population, ils tendent à protester contre leurs conditions de vie par une recrudescence des actes de délinquance. À Paris, on voit régulièrement des incendies de voitures, tout comportement non musulman offense l'islam et provoque soulèvements et menaces, comme à Amsterdam en représailles contre les caricatures de Mahomet et les films sur l'islam. Guyana 10%, Inde 13,4%, Israël 16%, Kenya 10%, Russie 15%. Passé le seuil de 20%, les nations peuvent s'attendre à des émeutes sous le moindre prétexte, la formation de milices djihadistes, des assassinats sporadiques et des incendies d'églises chrétiennes et de synagogues. Cas typique Éthiopie, 32,8%. À 40%, les nations subissent des massacres à grande échelle, des attaques terroristes chroniques et une guérilla permanente. Bosnie 40%, Tchad 53,1%, Liban 59,7%. À partir de 60%, ils subissent une persécution effrénée des infidèles de toutes les autres religions, y compris des musulmans non pratiquants d'ailleurs. Une purification ethnique sporadique, génocide, la charia comme une arme de guerre et la jizya ou impôt sur les infidèles, Albanie 70%, Malaisie 60,4%, Qatar 77,5%, Soudan 70%. Au-delà de 80%, on peut observer des menaces quotidiennes et une djihad violente, des opérations de nettoyage ethnique organisées par l'État, même des génocides puisque ces nations expulsent les infidèles et tendent vers 100% de musulmans. Bangladesh 83%, Égypte 90%, Gaza 98,7%, Indonésie 86,1%. Iran 98%, Irak 97%, Jordanie 92%, Maroc 98,7%, Pakistan 97%, Palestine 99%, Syrie 90%, Tadjikistan 90%, Turquie 99,8%, Émirats Arabes Unis 96%. Avec 100% commence une ère de paix, Dar es Salaam, la maison islamique de la paix. Alors on est censé être en paix parce que tout le monde est musulman. Les madrasas sont les seules écoles et le Coran la seule parole divine. Afghanistan 100%, Arabie Saoudite 100%, Somalie 100%, Yémen 100%. En vérité, cette paix n'est jamais effective, car dans ces États à 100% de musulmans, les radicaux intimident et persécutent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, en tuant les moins radicaux pour toutes sortes de raisons. De nos jours, 1,5 milliard de musulmans forment 22% de la population mondiale, mais leur taux de natalité écrase ceux des chrétiens, hindous, bouddhistes, juifs et autres confessions. On s'attend à ce que les musulmans constituent 50% de la population mondiale en 2100, si les chrétiens ne se décident pas à leur apporter la paix du Christ. Donné d'après le livre du Dr. Peter Hammond, Slavery, Terrorism and Islam, Christian Liberty Books, Afrique du Sud, en anglais, richement illustré, avril 2005. C'était donc l'actualité religieuse de la semaine sur votre radio préférée, Radio Silence. Au revoir, chers auditeurs, et à la semaine prochaine.